Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
D'abord, les grands titres de ce dimanche 24 juillet. La politique de détention offshore de l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée génère toujours des coups après la fin de l'arrangement il y a 7 mois. Un Australien arrêté au Royaume-Uni dit qu'il est accusé d'une fausse alerte à la bombe envoyée à l'ambassade de Chine. En Australie, le ministère de l'Intérieur a confirmé à SBS News que le gouvernement fédéral finance toujours l'hébergement, la nourriture et les dépenses de 104 réfugiés et demandeurs d'asile en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7 mois après que l'Australie a officiellement mis fin à son accord de traitement offshore avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le ministère a refusé de dire combien ou combien de temps encore va durer le financement. Le centre de détention australien sur l'île de Manus, qui abrite les demandeurs d'asile arrivés par bateau, a été jugé illégal et a été fermé par la Cour suprême de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2016. L'Iranien Maredad n'est pas classé comme réfugié et n'a ni droit de travail ni visa en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il déclare qu'il est difficile de faire face à un avenir incertain après des années de détention.
I treated like animals. They torture us. They make us sick mentally, physically, everything. I just want to leave this country and go start my life. This is not a life they give it to us.
Le gouvernement fédéral a offert une assistance consulaire à un militant australien des droits de l'homme après son arrestation lors d'une manifestation devant l'ambassade de Chine en Grande-Bretagne. Drew Pavlou dit avoir été arrêté devant l'ambassade de Londres alors qu'il protestait contre le traitement réservé aux Ouïghours, aux Tibétains et aux Taïwanais. Après avoir tenté de coller sa main et le drapeau taïwanais aux portes de l'ambassade chinoise, le jeune homme de 23 ans a été arrêté par la police métropolitaine pour avoir prétendument menacé de bombarder le bâtiment.
Someone's created an email address, written "This is Drew Pavlou", and that's their evidence. Upon that evidence, they held me in a cell for 23 hours. I was held incommunicado for part of that time. Wasn't able to talk to lawyers. Wasn't able to talk to the consulate. My legal rights were breached. I was arrested and held in cuffs in a painful stress position. And then just simply ask, who has the motive to write a hoax email against Drew Pavlou to get him locked up? Well, you can clearly see all the people who are celebrating right now on Twitter that the Chinese government supporters. So I've never been accused of anything this heinous. This is just the worst thing that's ever happened to me. Full stop. Someone's created an email address, written... This is.
Les responsables de soins aux personnes âgées appellent à une action urgente pour arrêter les effets du Covid-19 qui s'est maintenant propagé à plus de 1013 établissements de soins aux personnes âgées. Le nombre de cas dans le secteur est en hausse avec 6000 habitants et 3400 employés infectés par le coronavirus. Le directeur général par intérim de la Age and Community Care Providers Association, Paul Sadler, a déclaré que des mesures supplémentaires de soutien au personnel doivent être prolongés jusqu'en septembre pour faire face au nombre d'employés isolés dus au virus. Plus de 100 personnes sont décédées du Covid-19 dans toute l'Australie hier, samedi, alors que les experts avertissent que la maladie est désormais en passe de dépasser les maladies cardiaques en tant que principale cause de décès dans le pays. C'est la première fois depuis janvier que les décès quotidiens dus au virus dépassent les 100 personnes, avec plus de 5000 personnes traitées par le Covid-19 dans les hôpitaux. Le virologue de l'université Griffith, le professeur Nigel McMillan, a averti que le nombre de décès ne ferait qu'augmenter à mesure que les cas augmentent.
So this year alone, we have had 8,885 deaths from COVID. We will crack 9,000 deaths this next week. And at the current rate we're going to be on track to have more than 16,000 deaths from COVID. And that would put it at the number one category of causes of death this year.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de monkeypox comme une urgence mondiale, la classification et l'alerte la plus élevée, alors que l'OMS peut émettre et fait suite à une augmentation mondiale du nombre de cas à 16 000 dans 75 pays. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a déclaré que les responsables essayaient de comprendre comment le virus s'est propagé si rapidement.
I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. There are now more than 16,000 reported cases from 75 countries and territories and 5 deaths. WHO's assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally and in all regions, except in the European region, where we assess the risk is high.
On écoute maintenant le reportage de Jérémy Lanche à Genève pour RFI.
Comme pour le Covid à ses débuts, on ne connaît pas bien la variole du singe. La différence, c'est que cette fois, le virus touche, pour le moment en tout cas, à plus de 98% des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Le risque, c'est donc qu'une grande partie de la population ne se sente pas concernée et que les gouvernements tardent à réagir, voire réagissent mal. Le directeur des opérations d'urgence à l'OMS, Mike Ryan.
Cette alerte doit être prise au sérieux. Il y a d'ailleurs un risque que le virus se transmette au sein d'autres groupes. On sait par exemple que cela arrive dans un contexte familial, donc il ne faut pas que cette alerte mondiale serve de prétexte pour imposer des mesures coercitives aux personnes concernées par l'épidémie ou des mesures qui menaceraient leur dignité.
L'avantage, parce qu'il y en a un, c'est que tant que la maladie touche surtout une catégorie de la population, il est plus facile de faire de la prévention et de lutter contre le virus avec des mesures ciblées. Des vaccins existent d'ailleurs, même s'ils sont encore disponibles en quantité limitée. L'OMS recommande aux personnes à risque de se faire vacciner. Cela comprend le personnel de santé susceptible d'être confronté à la maladie.
L'armée ukrainienne a déclaré que des missiles russes avaient frappé le port d'Odessa dans le sud du pays, menaçant la mise en œuvre d'un nouvel accord pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes vers les ports de la mer Noire. L'accord a été signé vendredi par la Russie et l'Ukraine avec l'appui des Nations Unies et la Turquie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'attaque montre que la Russie trouve des moyens d'éviter la mise en œuvre de l'accord. Martin Chaval, RFI.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a condamné sans équivoque ces attaques. Il a fermement rappelé que la mise en œuvre intégrale de l'accord par la Russie, l'Ukraine et la Turquie était impérative. La Turquie, elle, s'est dite inquiète. « Nous sommes perturbés, mais nous continuons à assumer nos responsabilités concernant cet accord », a fait savoir le représentant turc lors des négociations sur les céréales. Le ministre de la Défense turque a ensuite assuré que les frappes n'avaient pas entravé la capacité et le potentiel des docks. Moscou a de son côté tenté d'apaiser les tensions et a nié toute implication dans ces frappes. Ankara a affirmé que les Russes leur avaient certifié qu'ils examinaient la question de très près. Pas de quoi rassurer l'Union européenne qui condamne fermement l'attaque. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, a pointé du doigt sur Twitter le mépris total de la Russie pour le droit international. Enfin, les États-Unis, qui avaient salué l'accord sur l'exportation de céréales avant de rapidement exprimer leur scepticisme quant au respect des engagements russes, l'ambassadrice américaine en Ukraine a appuyé sur l'idée que le Kremlin continue de militariser la nourriture.
Les pays africains, eux, espéraient avant cette attaque une baisse des prix des céréales suite à cet accord. Claire Fage, RFI.
L'Afrique pouvait attendre de l'accord entre l'Ukraine et la Russie une baisse des cours mondiaux des céréales, en particulier du blé. Mais selon le spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin, le bombardement d'Odessa remet en cause les espérances du continent.
L'impact direct pour l'Afrique, c'est au travers des prix. C'est vrai que s'il y avait eu un accord, les prix auraient eu assez logiquement tendance à baisser et que, à la suite du bombardement d'Odessa, le mouvement va en être enrayé. Ce n'est pas demain ni même après-demain que des céréales ukrainiennes vont pouvoir librement sortir par les ports ukrainiens.
Grâce à l'accord, l'embargo sur les engrais russes aurait dû être levé, ce qui aurait entraîné une baisse des prix des fertilisants, déjà très chers à cause de l'envolée des prix du gaz qui les compose. Il est urgent, souligne Philippe Chalmin, de mettre en place des routes alternatives terrestres pour les céréales et les engrais ukrainiens.
L'Afrique n'a pas grand-chose quand même à espérer de tous ces mouvements diplomatiques. Et il me semble qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse pression sur l'Union européenne pour que celle-ci finance les capacités terrestres, notamment ferroviaires, pour sortir par terre les céréales ukrainiennes, les amener sur le Danube et pouvoir les exporter au départ des ports roumains ou bulgares.
Les États africains devront aussi, selon le chercheur, mettre en place des politiques agricoles réduisant leur dépendance alimentaire.
La candidate à la direction du Royaume-Uni, Liz Truss, a déclaré qu'elle ne tenait rien pour acquis lorsqu'on lui a demandé si elle était à l'aise d'être considérée comme la favorite à succéder Boris Johnson. Madame Truss s'est engagée à supprimer toutes les lois restantes de l'Union européenne qui, selon elle, renforceront l'économie britannique. Son rival, Rishi Sunak, a qualifié d'immoral le fait d'emprunter de l'argent du gouvernement pour financer les impôts. Madame Truss s'engage à réduire les impôts pour promouvoir le statu quo et renforcer l'économie dans ce qu'elle décrit comme une période de crise.
I think it is wrong to be taking money from people that we don't need to take when people across the country are struggling with the cost of living crisis. We know fuel bills are higher, we know that food bills are higher, and what my changes would do is help people with the cost of living, but also drive growth in the economy that's going to lead to higher tax revenues so we can pay back that debt.
Le pape François arrive au Canada pour une visite exceptionnelle, comme l'explique Charlotte de Rouen pour RFI.
Le pape François arrive ce dimanche au Canada pour une visite qualifiée de pèlerinage pénitentiel auprès des populations autochtones. Début avril, François avait demandé pardon pour la première fois pour la responsabilité de l'Église catholique dans les mauvais traitements et les décès de nombreux enfants autochtones dans des pensionnats gérés en majorité par des congrégations catholiques jusqu'en 1996. Il avait alors reçu à Rome des délégations autochtones. Cette fois, il fait le voyage sur place, malgré ses problèmes de santé, signe de l'importance de ce dossier, comme l'explique Marie-Pierre Bousquet, professeure en anthropologie, directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal.
Elle est très importante parce qu'elle s'inscrit dans le processus de guérison et de réconciliation des autochtones au sujet de l'histoire des pensionnats, non seulement avec l'Église catholique, mais vraiment avec cette partie de leur histoire. Les premières excuses qui ont été présentées par le pape ont été en terre vaticane, et là il est important que ça se passe sur le territoire canadien. C'est symboliquement extrêmement fort. La majorité des enfants qui sont morts dans les pensionnats sont morts de maladies épidémiques. Ça ne rend pas le processus moins affreux. Hein. La moyenne est de plus de 20% des enfants qui meurent. Dans un des pensionnats, il y a jusqu'à 69% des enfants qui mouraient. Les pensionnats n'ont fermé qu'en 1996. Plein de gens se posent la question de qu'est-ce qui va se passer. Ça va être surtout ce qui va se passer dans le cœur des survivants. C'est ça qui est le plus important. Et ce qui va se passer aussi comme prise de conscience, continuation de la sensibilisation pour le reste des citoyens. Je pense que cette visite, qui est quand même la visite d'un chef d'État officiel, même si c'est le chef d'État de Nouvelle, ça va continuer tout ce processus-là.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 16 degrés. Adélaïde, 20 degrés. Melbourne, 18. Hobart, 15. Canberra, 16. Sydney, 18. Brisbane, 22. Darwin, 29. Et à Alice Springs, maximal de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce 24 juillet, la politique de détention offshore de l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée génère toujours des coûts après la fin de l'arrangement il y a 7 mois. Plus de 100 personnes sont décédées du Covid-19 hier pour seulement la journée de samedi en Australie. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.